Alors, je ne sais pas si ça vous arrive de faire un petit peu d'introspection de temps en temps. Mais moi, quand je regarde ma vie, mes actions, mes pensées, je me dis « Waouh, je suis tellement loin de la sainteté de Dieu. » Et peut-être que vous vous dites la même chose. « Waouh, Daniel est tellement loin de la sainteté de Dieu. » Bon, j'espère que vous vous dites cela aussi en regardant votre vie. Et puis de temps en temps, on rencontre quelqu'un qui nous impressionne par son amour, sa sagesse, son don de soi, par sa sainteté. Pourtant, dans la Bible, il n'y a pas tant que ça de personnages qui ne sont pas décrits avec des gros défauts ou qui commettent des péchés que même nous n'oserions pas imaginer. Alors, on ne connaît pas grand-chose de la vie d'Étienne, et c'est certainement pour cela aussi que l'on peut être impressionné et touché par ce personnage, par son apparente sainteté, par sa douceur d'esprit, mais surtout par son cœur pour Dieu. Il avait certainement des défauts, il était pécheur, comme vous et moi, ça c'est certain, mais la Bible ne nous en parle pas. Par contre, ce qu'elle nous dit sur cet homme est assez incroyable. Au verset 5 du chapitre 6, on voit qu'il est choisi avec 6 autres frères parce qu'il est digne de confiance, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. C'est déjà pas mal. Digne de confiance, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Puis au verset 8, toujours du chapitre 6, Luc s'attarde un peu plus longuement sur Étienne et nous apprend qu'il était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux. Et puis finalement, au chapitre 7, c'est comme si on l'entendait prêcher directement. Et ce qu'il va dire va tellement révolter les membres du Sanhédrin, qui était le tribunal suprême à l'époque, qu'ils vont le lapider sur le champ. Pas besoin de procès, il y a assez de témoins de son supposé blasphème. Et ce qui est frappant, c'est notamment ce sont les similitudes avec Jésus et avec son exécution. D'abord, ils discutent avec Jésus, hein, les chefs religieux, les pharisiens, et avec Étienne, et ils essaient d'argumenter. Mais tous sont frappés par leur éloquence et leur connaissance des Écritures. Tous deux opèrent des miracles, ou plutôt des signes miraculeux. Et finalement, pour s'en débarrasser, qu'est-ce qu'on fait? On a recours à des faux témoignages, des mensonges. Et on les accuse de blasphème avant de les exécuter. Alors avant de lire la fin du chapitre 7, parce que je ne vais pas lire tout le chapitre 7 qui est très long. Hein, pour les membres de l'Église, j'ai mis sur le groupe WhatsApp comme devoir pour aujourd'hui de lire le chapitre 7 du livre des Actes, hein, qui fait une 60aine de versets. Donc, si vous voulez pas qu'on finisse à 12h30, je ne vais pas le lire, mais je vais vous le résumer tout à l'heure. Mais donc, avant de lire une partie et de résumer son discours, j'aimerais qu'on se pose la question, en quoi le meurtre d'Étienne a le moindre rapport avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce que Étienne peut nous apprendre sur nous-mêmes et sur notre foi, sur notre relation avec Dieu et avec notre prochain? Et dernière chose, Étienne est connu comme étant le premier martyr du christianisme, si on met Jésus de côté. Et son meurtre va marquer le début d'une persécution envers les chrétiens qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et je ne parle pas des moqueries que l'on peut subir en France lorsqu'on est chrétien. Ce n'est pas ça la persécution. La persécution, c'est ce que vivent encore bien trop de chrétiens, notamment au Moyen-Orient, en Asie, en Inde, même dans certains pays d'Afrique, où les chrétiens n'ont pas le droit de se réunir, où ils sont frappés, emprisonnés et parfois tués pour leur foi. Alors on va lire Actes chapitre 7, donc je vais lire dans la version du Semeur, Actes chapitre 7, à partir du verset 44 jusqu'au verset 60. Certains versets ont déjà été lus par Renaud, mais c'est pas un problème, au contraire. Donc je commence un peu plus tôt, avec la fin de son discours, où en gros il se défend des accusations de blasphème. Verset 44. Au désert, nos ancêtres avaient avec eux la tente qui contenait le traité de l'Alliance et que Dieu avait ordonné à Moïse de construire d'après le modèle qu'il lui avait montré. Cette tente a été confiée à la génération suivante de nos ancêtres. Ils l'emmenèrent avec eux quand ils conquirent sous la conduite de Josué le pays où se trouvaient les peuplades que Dieu chassa devant eux. Elle y demeura jusqu'au temps de David. Celui-ci obtint la faveur de Dieu et demanda de pouvoir donner une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui bâtit le temple. Cependant, le Dieu Très-Haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines. C'est ce que dit le prophète. Mon trône, c'est le ciel, et mon marchepied, c'est la terre. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur. Quelle demeure pour mon lieu de repos? Toutes ces choses, n'est-ce pas moi qui les ai faites? Oh, vous hommes obstinés, qui comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, et vous ne l'avez jamais observée. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne, mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri. « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché ou ne leur tiens pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Avant de vous résumer son long discours et ses conséquences, j'aimerais attirer votre attention sur la façon dont Luc décrit Étienne au chapitre 6, verset 8. On l'a déjà lu, Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux. Quand on regarde le grec et les traductions plus anciennes, comme celle de Second par exemple, il n'est pas fait mention de puissance divine, mais simplement de grâce et de puissance. Alfred Kuhn, dans sa transcription du Nouveau Testament, Parole vivante, traduit ainsi « Dieu a donné à Étienne sa force et son amour ». Ces deux qualités, grâce et puissance, sont surprenantes lorsqu'elles sont mises côte à côte pour décrire quelqu'un. Étienne n'était pas n'importe qui, et il n'était pas comme tout le monde. Ces deux qualités sont d'ailleurs généralement attribuées à Dieu et à Jésus. Dieu jugera un jour chacun d'entre nous. Il a la puissance de la vie et de la mort. Mais par le sacrifice de Jésus, nous avons obtenu sa grâce. Il nous a graciés. Il a annulé la peine que nous devions recevoir. Et même si chacune de nos actions sera jugée, nous serons déclarés justes par le sang de Jésus. Si nous confessons, si nous croyons que sa mort nous donne la vie et que son sacrifice suffit à notre salut. Alors je me suis attardé sur la traduction de ce verset, mais pour autant, je ne pense pas que la traduction du semeur est mauvaise. Elle explicite tout simplement d'où viennent cette grâce et cette puissance. J'ai dit qu'Étienne n'était pas comme les autres en tant que premier martyr. Et par ces deux qualités qu'il décrivent, oui, il avait quelque chose d'extraordinaire. Mais cela ne doit pas nous dédouaner de notre manque de grâce et de puissance. Il est vrai que les apôtres avaient imposé les mains sur lui et sur les six autres diacres. Il était consacré au service de Dieu. Mais je vous rappelle que le Saint-Esprit qui est en nous est le même que celui qui était en Étienne. Alors nous aussi, nous pouvons et nous devons faire preuve de grâce et de puissance. Ne minimisons pas l'action que le Saint-Esprit peut avoir en chacun d'entre nous. Ne la minimisons pas et surtout ne l'empêchons pas, ne l'entravons pas. Voilà donc déjà une première chose que nous pouvons apprendre d'Étienne. La deuxième chose qu'il peut nous enseigner, c'est un mélange de connaissance et d'audace. Le courage qui nous manque parfois pour annoncer clairement l'évangile, comme on l'a chanté, dites-le fort. Ici, il va résumer l'Ancien Testament en 60 versets dans le but donc de se défendre des accusations de blasphème faites contre lui. Alors en effet, on l'accuse de blasphème, plus précisément d'avoir blasphémé contre le lieu saint, le temple, selon ses accusateurs, et contre la loi de Moïse. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est la même accusation qui avait été faite à l'encontre de Jésus. Car Jésus avait dit qu'il pouvait détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Mais lui, évidemment, parlait de son propre corps. Dans son récit, donc, Étienne va retracer l'historique du peuple d'Israël, en commençant par Abraham, puis Jacob, puis Joseph, et finalement Moïse. Mais dans son récit, il va se concentrer sur le fait que tous ont été exilés. Ils ont dû tous partir. Ils ont dû tous quitter leur patrie. Et aucun d'entre eux n'a pu s'établir dans la terre promise, puisque même Moïse, qui a conduit le peuple hors d'Égypte, est resté 40 ans dans le désert et n'a jamais mis les pieds dans le pays de Canaan. Avant que Salomon ne construise le temple à Jérusalem, le peuple d'Israël avait la tente qui contenait le traité de l'Alliance, le tabernacle. Mais Étienne, au verset 49, va citer Ésaïe 66 pour expliquer que Dieu n'habite pas dans les édifices construits par la main des hommes. Je cite, « Mon trône, c'est le ciel, et mon marchepied, c'est la terre. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur? Quelle demeure pour mon lieu de repos? Toutes ces choses, n'est-ce pas moi qui les ai faites ?» À aucun moment, il ne blasphème contre le temple de Jérusalem, qui était considéré par les Juifs de l'époque comme le lieu sacré. Mais ce qu'il explique, c'est que Dieu était présent au milieu de son peuple, même lorsqu'il n'y avait pas de temple ou de tente de l'Alliance, et que le sol où Moïse a vu le buisson ardent était tout aussi sacré que le temple de Jérusalem. Et c'est la même chose avec les sacrifices, comme le dit David dans sa prière de repentance au psaume 51, pardon. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dieu n'a que faire de notre religion et de nos rituels. Ce qu'il veut, c'est notre cœur. Quand j'étais petit, on m'a dit qu'il fallait demander à Jésus de venir dans mon cœur. Est-ce qu'on vous a dit la même chose? Est-ce que vous avez demandé à Jésus de venir dans votre cœur? Et qu'il fallait que je lui donne mon cœur et qu'il allait le transformer. Alors ce sont des paroles un petit peu simplistes, mais elles sont prophétiques en même temps. Non, ça ne suffit pas de demander à Jésus de venir dans son cœur pour être sauvé. News. C'est un petit peu trop simpliste. Et ça omet de demander pardon à Dieu pour nos péchés et d'accepter le sacrifice de son fils Jésus. Bon, mais quand on a 6 ou 7 ans, on ne comprend pas encore tout ça. Et en même temps, il y a quelque chose de tellement vrai et authentique dans cette image de donner son cœur. Étienne aurait pu leur demander « Est-ce que vous avez donné votre cœur à Jésus ?» Et je pense qu'il l'aurait lapidé également. Pourtant, c'est ça la vérité. Est-ce que vous lui avez donné votre cœur ? C'est ça la foi sincère, l'authentique foi en Jésus-Christ, l'authentique conversion. Je répète ma question, est-ce que vous lui avez donné votre cœur ou est-ce que vous l'avez gardé pour vous? Est-ce que Jésus est véritablement l'objet principal de votre affection, disons-le, de votre amour, ou est-ce qu'il y a plein d'autres choses qui viennent avant? Un jour, j'ai eu le malheur de dire à quelqu'un que j'aime beaucoup que son cœur était noir et qu'il était dur, comme on l'a chanté, dur comme la pierre. Et cette personne ne l'a jamais oublié. Je ne sais pas si elle m'a pardonné pour cette parole malheureuse. Qui suis-je pour juger les cœurs? Seul Dieu peut juger nos cœurs. Et en même temps, cette parole était vraie. Mais pas plus vraie pour cette personne que pour moi ou pour vous. Nous avons tous un cœur noir, un cœur dur. C'est ça aussi le péché, un cruel manque d'amour, un manque de grâce, contrairement à Étienne, contrairement à Jésus. Mais nous ne nous en rendons pas toujours compte. Alors oui, nous avons besoin de donner notre cœur à Jésus et de le laisser nous transformer jour après jour et jusqu'à la fin de notre vie. Alors c'est vrai, un peu comme Jésus, quand il les traite de race de vipères, Étienne n'y va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Il y va franco. Au verset 51, « Ô vous hommes obstinés, qui comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. » Alors attention. Est-ce que Dieu vous parle, là, aujourd'hui, à travers ses paroles? Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que vous aussi, vous êtes obstiné, têtu, borné? Est-ce que vous aussi, vous refusez d'ouvrir vos cœurs et vos oreilles? Est-ce que vous aussi, vous résistez au Saint-Esprit?
Alors moi, je pense que je connais la réponse.
C'est peut-être pas un énorme oui tout le temps, mais il y a des chances que ce soit quand même un oui au moins de temps en temps. Pour moi, le premier. Le mot grec pour obstiné est traduit en anglais par stiff-necked. C'est comme avoir le cou un peu trop tendu. Hein? Être têtu et fier à la fois. Mais fier dans le mauvais sens du terme. Hein? Cette fierté qui nous empêche de reconnaître nos fautes et qui bloque notre relation avec Dieu. Et lorsqu'il les traite de véritables incirconcis, il reprend la circoncision en tant que symbole donné à Abraham de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple, symbole de purification. Hein? On coupe, on émonde. Et Paul va d'ailleurs reprendre cette idée et la développer dans Romains 2, versets 28-29, je vais citer. Romains 2, 28-29. Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'esprit opère dans le cœur et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Alors, ça s'applique pas qu'aux juifs, hein. Ça s'applique à nous, protestants, nous, évangéliques, hein, qui parfois prenons la loi un petit peu trop à la lettre et qui devenons légalistes et qui pensons que la loi peut nous sauver, alors que c'est seulement la grâce qui peut nous sauver, parce que nous n'arrivons pas à obéir à la loi, à la lettre. Étienne aurait pu leur demander si leur cœur était véritablement circoncis. Mais je suis pas sûr qu'ils auraient compris non plus. Je sais pas si vous avez entendu parler de George Bernard Shaw, c'est un dramaturge, un polémiste, hein, de la fin du 19e, début du 20e siècle, prix Nobel de littérature en 1925. Alors vous connaissez peut-être My Fair Lady, qui est un classique génial. Si vous l'avez jamais regardé, faut le regarder. C'est une adaptation de Pygmalion, une pièce de théâtre de George Bernard Shaw. Alors, ce qui est intéressant chez ce personnage, il avait beaucoup d'humour, un humour grinçant, beaucoup d'ironie aussi. Hein. Il aimait bien dire « Je suis athée, Dieu merci ». Et ça montre un petit peu son côté paradoxal, évidemment. Eh bien, lui, il pensait que ce chapitre, ce discours d'Étienne, il n'y avait rien de plus ennuyeux. Hein, il trouvait vraiment, pour lui, Étienne, c'était pas un bon orateur. Il répétait des choses, il racontait, il résumait l'Ancien Testament à des gens qui connaissaient la Bible et l'Ancien Testament mieux que lui. Donc, pour lui, aucun intérêt. Mais vous allez voir, c'est pas tout à fait la réalité. Alors, c'est vrai que ce discours est très long. Peut-être la plus longue prédication rapportée dans la Bible. Et contrairement au discours de Pierre, hein, lors de la Pentecôte, eh bien, Luc n'était probablement pas présent à ce moment-là. Il n'y a aucune raison qu'il soit présent à la lapidation d'Étienne. Alors là, vous demandez, comment est-ce qu'il a pu rapporter ce discours avec autant de détails et de précisions? La réponse, on la trouve à la fin du chapitre. Hein? Il y avait un témoin. Alors, je me suis perdu complètement dans mes notes. Alors, en fait, je voulais dire autre chose avant. Donc, je vais revenir là-dessus après. Je vais reprendre. Oui, j'ai dit contrairement au discours de Pierre. Luc n'était pas présent, mais il y avait autre chose que je voulais dire. Contrairement au discours de Pierre, Étienne ne mentionne pas directement Jésus. Il le fait subtilement, en verset 37. lorsqu'il cite les paroles de Moïse dans Deutéronome 18:15, Dieu suscitera pour vous, du milieu de vous, compatriotes, un prophète qui sera comme moi. Et également, au verset 50, je me suis perdu aussi, désolé. Est-ce que je l'ai noté ? Je l'ai plus sous mes... je vais reprendre. Acte chapitre 7, t'as trouvé yes, ou pas encore ? Hop, hop, hop. J'y ai pensé en fait après, c'est pour ça. Vous pouvez m'aider ? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, je disais plus ou moins subtilement quand il dit « Vous ressemblez bien à vos ancêtres ?» Petite parenthèse. Hein, ça fait jamais plaisir quand on vous dit « Tu ressembles à ton père !» C'est ce qu'il leur dit. « Vous ressemblez à vos pères. » En général, quand on dit ça, on parle pas des qualités. Hein. « Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. » De qui il parle ? Celui qui annonçait la venue du seul juste, Jean-Baptiste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Donc, pas si subtil que ça, finalement. Je reprends mes notes. Si je vais y arriver, je suis désolé. Voilà. Jésus, comme Abraham, Joseph et Moïse avant lui, et comme la plupart des prophètes de l'Ancien Testament, sera rejeté par son peuple. Et je disais donc, Luc n'était probablement pas présent, et qui est ce témoin ? Verset 58, les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Saul. Ce même Saul qui, dès le premier verset du chapitre 8, deviendra le leader de la persécution envers les chrétiens. Ce même Saul qui, au chapitre 9, entendra la voix de Jésus, qui lui dira « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu hein, sur la route de Damas ?» et qui va se convertir de façon dramatique. Et ce même Saul, dont le nom romain était Paul, et qui deviendra le premier missionnaire auprès des non-juifs, et l'homme peut-être le plus important dans la propagation de l'Évangile à travers ses voyages, mais également à travers ses lettres, qui forment une grande partie du Nouveau Testament. La théologie qu'il va développer, d'ailleurs, inspiré par l'Esprit, reprendra les éléments principaux du discours d'Étienne. Paul va prendre le relais. Il va reprendre le manteau d'Étienne, qui avait peut-être été déposé à ses pieds, en même temps que les manteaux de ses bourreaux, comme le suggère le grand Charles Spurgeon. Oui, ce discours que Bernard Shaw qualifiait de « ennuyeux », ou rébarbatif, va vraisemblablement marquer Paul à jamais. Il va d'ailleurs y faire référence au moins à deux reprises dans les Actes, notamment au chapitre 22, verset 20. Il dit, c'est Paul qui parle, « Lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais là, en personne. J'approuvais ce qui se passait et je gardais les vêtements de ces meurtriers. » Mais l'autre chose qui l'a sans nul doute frappé et touché à la fois, c'est la mort d'Étienne, la façon dont il est mort. Un petit peu comme le centurion à la croix, qui avait vu plein d'hommes mourir, mais quand il a vu Jésus mourir, qu'il a vu la terre trembler, l'obscurité, il a compris. Il a prononcé ces paroles, certainement ce Jésus était le Fils de Dieu. Alors, quelle différence entre une mort habituelle et celle d'Étienne ? Eh bien, Étienne ne meurt pas en maudissant ses agresseurs. Bien au contraire. Il fait ce que Jésus nous demande de faire. Bénissez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Et il demande à Jésus de ne pas tenir compte de leurs péchés, comme Jésus l'avait fait auparavant. Il meurt en paix, et même en extase, car il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Alors que partout ailleurs dans la Bible, il est assis à la droite du Père. Mais là, il est debout. Petit détail intéressant. Debout comme un bon avocat. Le bon avocat qu'il est. Jésus qui plaide la cause d'Étienne auprès du Père. Non pas parce qu'Étienne était un chrétien extraordinaire, qu'il avait vécu une bonne vie et qu'il était mort en martyr, mais tout simplement parce que Jésus a payé le prix à la croix, autant pour Étienne que pour nous. Et peut-être que Étienne le voit debout aussi parce que Jésus est prêt à l'accueillir, à le prendre dans ses bras. Je conclus. En filigrane du martyr d'Étienne, on a donc la conversion de Paul. Un serviteur extraordinaire de Dieu est mort, Étienne. Un autre est né et va reprendre le flambeau. L'Église ne va pas mourir car un de ses fidèles est mort. Au contraire, elle va se multiplier. Vous n'êtes pas indispensable à Dieu. Je ne suis pas indispensable à Dieu. Et même si on est tous très contents d'avoir un nouveau pasteur, Michael n'est pas indispensable à Dieu et à notre Église. Et je suis sûr qu'il serait d'accord, même s'il n'est pas là, on lui demandera. Mais Dieu, une fois qu'on l'a laissé circoncire nos cœurs, une fois qu'il a commencé à nous transformer, il veut nous utiliser là où nous sommes, avec ce qu'il nous a donné. Alors laissons-le nous utiliser pour sa gloire et jusqu'à notre mort, quelles que soient nos épreuves et nos souffrances sur cette terre. Ça, ce sera pour un autre message. J'ai envie de conclure avec cette phrase, « Me voici, envoie-moi ». Et on va écouter ce chant. Nous voici, envoie-moi. Et normalement, on va avoir les paroles aussi. On peut rester assis et si vous connaissez et que vous avez envie de chanter, vous pouvez également chanter.